Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au dernier journal des médias dans cet horaire, en tout cas je l'espère. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ce matin, je vous parle de Patrick Drahi qui s'en prend aux instances du foot européen, du retour du magazine L'Équipe, de Facebook qui veut généraliser le télétravail et de Netflix qui résilie vos abonnements. Si, vous allez voir, c'est vrai.
Alors on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Hier soir, c'est une rediffusion de la série Cassandre sur France 3 qui l'a emporté. Près de 4 400 000 téléspectateurs étaient devant le programme. D'ailleurs, une belle journée pour France 3 qui était hier deuxième chaîne de France. Derrière, on retrouve TF1 et le film Star 80 qui a été regardé par plus de 3 700 000 téléspectateurs. Et M6 est troisième du podium avec sa série Why Women Kill qui a été suivie par près de 3 500 000 de personnes. Et justement, concernant la série Why Women Kill, c'était donc hier la diffusion du dernier épisode de la première saison de la série du créateur de Desperate Housewives. Eh bien, M6 peut se féliciter de ce lancement. Les audiences de Why Women Kill ont établi des records pour une première saison sur la chaîne. M6 n'avait pas connu de tel niveau depuis 2006 pour une série américaine. Et à l'époque, c'est Prison Break qui avait établi ce record. Et autre source de satisfaction, Why Women Kill a été leader sur la cible commerciale des femmes, le responsable des achats de moins de 50 ans, les anciennes ménagères, lors de chaque soirée de diffusion.
Et on verra les scores que fera la saison 2 sans période de confinement.
Culture Média.
Cyril, on commence maintenant ce journal des médias après Canal+ et Bein Sports qui ont refusé de payer pour le foot français pour cause d'arrêt du championnat. On en avait parlé ici. C'est maintenant Altice qui veut à son tour régler ses comptes avec l'UEFA.
Show me the money. That's it, brother. But you got to yell that shit. Show me the money. I need to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money.
Show me the money, un passage du film Jerry Maguire avec Tom Cruise. Et c'est exactement ce que Patrick Drahi, le grand patron d'Altice, compte dire aux instances européennes du foot. La raison, comme tout le reste, la Ligue des Champions et la Ligue Europa ont été arrêtées. Et du coup, eh bien, Patrick Drahi estime ne pas en avoir pour son argent. On ne peut pas lui donner tort. Hein. Mmh. Altice a versé 175 millions d'euros en juillet dernier et à nouveau 175 millions d'euros en janvier. Mais comme il le dit lui-même, depuis, je n'ai vu personne jouer depuis mi-mars. Du coup, le patron d'Altice compte, je le cite, récupérer l'argent très rapidement auprès de l'UEFA. Reste que la négociation s'annonce délicate, car pour le moment, l'UEFA n'a pas annoncé que ces compétitions étaient définitivement terminées. Il se pourrait même qu'elles se jouent durant l'été. Patrick Drahi compte toutefois réclamer son dû, mais il se pourrait bien aussi que ses abonnés lui réclament le leur. Car figurez-vous que ceux qui avaient choisi de s'abonner à RMC Sport pour une période d'un an, c'était une manière pour eux de bénéficier d'un meilleur tarif, eh bien ces abonnés continuent d'être prélevés tous les mois, alors que, comme le dit Patrick Drahi, on n'a vu personne jouer depuis mi-mars. L'association de consommateurs UFC Que Choisir vient d'ailleurs de conseiller aux abonnés à RMC Sport, mais aussi aux autres offres, de réclamer un remboursement. Bref, chemise monnaie, Patrick.
Mais je pense que c'est un dossier qu'on va suivre ici à Culture Média. On passe à la presse écrite, Cyril, signe de la reprise. Demain, le magazine L'Équipe sera de nouveau dans les kiosques.
Et oui, avec le confinement, ces équipes avaient décidé de suspendre la parution du supplément du journal L'Équipe vendu le samedi. Il est donc de retour. Et pour son retour demain, le magazine L'Équipe a fait le choix de fêter un grand absent de ce printemps sportif, Roland Garros. Et pour cause, le tournoi de tennis a été décalé en septembre pour cause de crise sanitaire. Mais du côté de L'Équipe, on s'est dit qu'il y avait quand même des histoires à raconter. Géraldine Catalano, la rédactrice en chef de l'hebdomadaire, nous en dit plus.
On a profité de cette actualité un peu étrange, hein, parce que notre date de sortie, donc le 23 mai, correspond au week-end en fait, où aurait dû se dérouler l'édition 2020 de Roland-Garros. Donc on a eu envie de vivre le tournoi sans complètement y être, mais en y étant un peu, en revenant un tout petit peu en arrière et en s'intéressant à demain. Donc en arrière, en fait, ça correspondait à un anniversaire symbolique et important dans l'histoire du sport français, parce qu'il se trouve que c'est 2020, donc marque le 20e anniversaire de la victoire, double victoire, parce qu'elle avait gagné en simple et en double, de Marie Pierre sur la terre de Roland-Garros. Et puis on était à un reportage donc à la découverte du nouveau toit de Roland-Garros, donc un peu l'arlésienne en fait de ce tournoi, et qui est prêt, qui devait être l'une des grandes stars de cette fin de printemps avec Roland, et qui interviendra un tout petit peu plus tard, mais voilà, donc il est achevé. Et donc on a un reportage photo et un reportage écrit, donc qui raconte un petit peu à la fois l'histoire de ce toit et puis où on en est aujourd'hui.
Et toujours concernant le tennis, mais cette fois assez loin de la porte d'Auteuil où se joue Roland-Garros, le magazine L'Équipe a eu une idée assez amusante de revenir à un des accessoires des apprentis tennisman tombés un peu en désuétude, mais qui est revenu dans l'air du temps. J'y jouais moi-même quand j'étais gamin, le mur.
Parce que le mur, pour tous ceux qui aiment le tennis, c'est vraiment un élément de décor du paysage tennistique qui a beaucoup compté dans le passé, y compris pour les immenses champions, et qui est revenu un peu dans l'air du temps à la faveur du confinement, notamment pratiqué par les immenses stars que sont Federer, Mladenovic, Djokovic, enfin voilà, toutes les grandes stars ont pratiqué le mur pendant le confinement et l'ont remis un peu au goût du jour. Donc voilà, on s'intéresse à cette place qu'occupe le mur de tennis qui était un peu oublié avant le confinement dans l'histoire de ce sport. Ils se délitent un petit peu en fait ces murs alors qu'ils ont énormément compté, et puis c'est aussi c'est un retour aux sources en fait. C'est aussi vieux que l'histoire du jeu en fait, le mur. En tout cas, c'est l'un des effets positifs, je dirais, du confinement que d'être revenu un peu vraiment aux ultra basiques de la pratique de certains sports, et le mur en tennis en fait raconte vraiment ça.
Le magazine L'Équipe spéciale Roland-Garros sans Roland-Garros, c'est demain dans les kiosques.
Le coronavirus aura eu et aura des conséquences chez Facebook.
Mark Zuckerberg a annoncé hier soir que d'ici 5 à 10 ans, la moitié des salariés de son groupe seraient en télétravail dès l'année prochaine. Les employés concernés par ces mesures devront dire d'où ils entendent travailler, de chez eux, ou d'ailleurs et surtout dans quel état, car ça peut compter aux États-Unis concernant les taxes que paye l'entreprise. Actuellement, et pour cause de crise sanitaire, 95% des salariés de Facebook travaillent déjà à distance, et la situation va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Selon une étude interne révélée par Zuckerberg lui-même hier soir, la moitié de ses salariés disent être aussi productifs depuis chez eux qu'à leur poste de travail habituel, et à peu près autant disent être intéressés par du télétravail. Facebook n'est pas la première entreprise à se lancer dans le mouvement. Twitter a déjà annoncé qu'il allait encourager l'immense majorité de ses 4900 salariés à travailler depuis chez eux de manière permanente.
C'est assez rare pour être signalé, Netflix va supprimer les comptes de ses clients.
En tout cas de ses clients inactifs, ceux qui ont oublié qu'ils étaient abonnés à Netflix. Je vous rassure, si vous regardez régulièrement les programmes de la plateforme, vous ne vous ferez pas mettre dehors comme un malpropre. Si en revanche, vous n'avez rien regardé depuis un an sur Netflix, en gros si vous avez ghosté Netflix, eh bien votre compte va être automatiquement suspendu. Rassurez-vous, la rupture ne sera pas brutale. Netflix va y mettre les formes, vous aurez droit à un petit mail pour vous prévenir qu'entre vous et lui, eh bien l'histoire est terminée. À en croire Netflix, ses comptes inactifs représentent moins de 0,5% du nombre total de ses abonnés, soit quelques centaines de milliers. Je vous rappelle que Netflix compte 182 millions d'abonnés dans le monde.
C'est peut-être un coup marketing, mais en tout cas c'est très élégant. Mais Cyril, pourquoi Netflix décide de supprimer de lui-même des comptes qui lui rapportent ?
Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que comme ça Netflix, et en tout cas comme ça que Netflix se justifie, c'est une manière pour l'entreprise de faire des économies à ses utilisateurs qui n'utilisent pas Netflix. Un acte de pure générosité donc, ouais. Mais pas seulement, et c'est la deuxième raison, le petit mail vous prévenant que votre abonnement va être résilié, suspendu, peut aussi être une bonne occasion de se rappeler au bon souvenir de celui qui avait tourné la page et de le faire revenir à un comportement plus raisonnable, c'est-à-dire se remettre à regarder Netflix. Et d'ailleurs, la rupture aura d'abord toutes les allures d'une pause. Netflix annonce qu'une fois le compte supprimé, le profil et les favoris de l'utilisateur, parti voir si l'herbe est plus verte ailleurs, seront conservés dans les archives de la plateforme durant 10 mois. De quoi permettre un jour des retrouvailles comme si de rien n'était.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous souhaite un très bon week-end. On vous retrouve lundi à 9h pour un nouveau journal des médias, Culture Média qui continue évidemment. Dans un instant, ce sera notre info média du jour. L'émission What's Up qui fête aujourd'hui sa 2000e, elle est diffusée sur Gulli, un programme pour les enfants en partie réalisé par des enfants. Pour en parler, nous ne sommes pas avec des enfants, nous sommes avec le réal rédac chef, également le producteur, juste après ça.
Culture Média, Philippe Vandel.
C'est une émission qui fête aujourd'hui sa 2000e, 10 ans d'existence, 7000 sujets et 150 reporters, pas moins par saison. Des reporters un peu spéciaux, on va vous expliquer pourquoi. L'émission s'appelle What's Up et elle est diffusée tous les jours à 20h35 sur Gulli. Pour en parler, nous recevons Anton Pivnik, le producteur de l'émission. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Et Benjamin Josse, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le réalisateur et le rédac-chef de What's Up. Antoine Pivnik, d'abord, c'est quoi What's Up pour qui ne la connaîtrait pas? Comment vous pouvez décrire l'émission?
Alors, What's Up, c'est une émission de culture et de tendance pour les enfants. Ouais. C'est de l'info sur tout ce qu'ils peuvent faire le week-end avec leurs parents, tout ce qui sort en DVD, en jeux vidéo. C'est vraiment l'émission culturelle d'actu pour les enfants.
Les enfants, ils vont de quel âge à quel âge dans votre esprit?
C'est du 6-12 à peu près.
D'accord. Elle vient d'où cette émission? D'abord, on n'a pas dit, le format dure combien de temps?
C'est du 5 minutes quotidien.
5 minutes, ça a démarré sur Canal J et c'est depuis la saison 5 sur Gulli, c'est bien ça?
Voilà, c'est ça. Et avant sur Gulli, il y avait Gulli Mag qui était à peu près le même format. On avait deux magazines, un sur Canal J, un sur Gulli. Et puis finalement, c'est WhatsApp qui l'a emporté.
Félicitations. Voilà. Benjamin Joss, qu'est-ce que cette émission, puisque vous en êtes le maître d'œuvre au quotidien, réalisateur et rédacteur en chef, qu'est-ce que cette émission WhatsApp a de différent des autres émissions pour enfants? Tiens d'ailleurs, pourquoi c'est elle qui l'a emporté justement? Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans WhatsApp?
Elle a mangé Gulli Mag parce que par une certaine liberté de ton, en fait. Je pense que c'est la seule émission qui permette aux enfants, un, d'exercer leur curiosité, mais aussi d'exercer leur sens critique. Et ça, c'est une vraie singularité dans le programme. Parce qu'ils notent absolument tout, alors que ce soit des jeux vidéo, des livres, des spectacles, le cinéma. Ils donnent une note, ils pèsent le pour, ils pèsent le contre. Et ça, à la télévision, c'est assez rare. Et je crois que ça n'existe même pas pour cette cible-là, en tout cas, le 6-12 ans.
Oui, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce ne sont pas des gens qui décident à la place des enfants ce qui est bien ou moins bien pour eux. C'est les enfants eux-mêmes qui disent
exactement.
Ça j'aime pas. Il y a un peu les parents derrière ou pas?
Pas du tout, parce que lorsque les parents sont là, ça stresse les enfants. Et pareil pour les attachés de presse d'ailleurs, hein, tout le monde est sommé de quitter la pièce quand il y a la critique. Mm-hmm. Donc non, c'est vraiment des réponses d'enfants. Et c'est toujours un petit peu étonnant d'ailleurs, parce qu'on s'attend rarement. Souvent, les points négatifs ne sont pas toujours ceux qu'on attend.
Ah oui, par exemple?
Il y a souvent pour les films, il y a souvent des moments des personnages qu'ils ont détestés alors que c'est le personnage principal et ils vont s'intéresser au troisième personnage au fond à droite de l'écran et à chaque fois je suis étonné même après 10 ans.
Ouais. Et comment vous faites pour vous départir de ce petit défaut qui arrive parfois? Vous savez l'enfant qu'on appelle le singe savant dont on sent qu'il est en train de répéter un discours appris par cœur par les parents.
Ils connaissent tous l'émission. Donc dès qu'ils voient le micro qui est assez iconique, parce que même si on le sort pendant un tournage, les enfants viennent naturellement, ils le reconnaissent, ils connaissent tous les codes de l'émission. Et en fait, ils savent qu'ils doivent être assez francs. Mmh. Donc ils se prennent au jeu très facilement finalement. Ils écoutent pas ce que les adultes vont leur dire. Ils cherchent la petite bête pour essayer de savoir ce qui va, ce qui va pas.
Alors aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la 2000e de WhatsApp. On va entendre le générique et le sommaire de ce soir.
Salut à tous, besoin d'une dose de tendance, d'humour et d'insolite, vous êtes au bon endroit. La preuve, car dans WhatsApp, il y a aujourd'hui des conseils bienvenus, un plongeon en profondeur et des sculptures remuantes.
Benjamin Joss, la 2000e émission a été réalisée en mode confinement, évidemment, et donc dans des conditions plus modestes qu'habituellement. Qu'est-ce que vous aviez prévu de spécial pour la 2000e que vous n'avez pas pu faire?
Alors, on avait prévu d'aller revoir déjà certaines personnalités qui avaient participé à l'émission, et puis on avait prévu de recontacter les premiers petits reporters qui ont maintenant... Bah, presque 20 ans.
Ah, il passe le bac.
Voilà, enfin, exactement.
Pour les plus retardés, ils ont le bac depuis 3 ans pour les plus doués.
J'espère pour eux qu'ils l'ont maintenant. Et on avait prévu plein de petites surprises et puis la pandémie nous est tombée dessus. Ouais. Et on a dû revoir les choses entièrement. Bon, déjà, ça a été une année très compliquée parce que c'était un peu Koh-Lanta pour nous au niveau production pour cette 10e saison.
Ah oui, vous aviez faim.
En fait, ça a commencé avec les gilets jaunes de septembre à novembre qui, avec les manifestations, ont annulé. Nous ont fait annuler tous nos tournages le samedi. Et quand on tourne avec des enfants et qu'on tourne le mercredi et le samedi, tout devient compliqué. Et puis après, ça s'est calmé. On s'est dit génial, on va reprendre un rythme normal. Et là, il y a une grève nationale de 2 mois.
Voilà. Et on y est. Quelle année 2019-2020, incroyable et inédite. Coronavirus oblige. Vous l'avez dit, vous avez dû adapter votre contenu. Et dans la 2000e, les jeunes téléspectateurs de Gulli donnent des conseils pour s'occuper pendant le confinement.
Si vous êtes plus manuel, Bérénice a une autre idée. Et c'est aussi très simple à faire à la maison.
De la pâte à sel.
Mais alors, dis-nous Bérénice, qu'est-ce qu'il faut pour en faire?
2 verres de farine, 1 verre de sel, de l'eau tiède, de la peinture à la fin pour colorer notre pâte à sel.
Des ingrédients qu'on a tous chez nous, Bérénice a fait un porte-bougie en forme de cœur. Une fois terminé, l'un de ses parents met le tout au four à 100 degrés environ 1 heure et sa création aura durci. Trop sympa. Bon, et bien merci à tous pour ces idées très chouettes, ça donne envie de se retrousser les manches.
Laurent Mariotte, qu'on va entendre tout à l'heure à la fin de l'émission, a pris des notes sur la recette de la pâte à sel donnée par Bérénice 6 ans. Blague à part, combien de vidéos avez-vous reçues pendant le confinement ?
En fait, on a fait appel à nos petits reporters juniors. On a en gros 150 reporters juniors par saison qui participent à l'émission. Et on en a reçu plus de 80 familles ont participé. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus d'enfants. Oui. Et nous ont envoyé les vidéos tournées chez eux. Et c'est vrai que là, c'est très particulier de produire une émission avec des images tournées par des amateurs. Parce que ça rend les choses un peu compliquées. On a eu le doigt en haut de l'écran du parent qui tourne son enfant. On a eu les objectifs un peu gras. On a eu les images en basse définition. Ouais. Donc voilà, on a dû faire avec. Et finalement, on y est arrivé. Et je suis ravi que la pandémie soit passée. Enfin, en tout cas, ouais. Le confinement soit passé.
Et j'espère que vous avez eu le chat qui passe dans la vidéo. Sinon, c'est pas une vraie bonne vidéo. Je réalise un truc. On n'a absolument pas parlé de l'audience. Vous restez avec nous. C'est les questions parmi lesquelles je vais poser. Cette phrase n'est pas en français. Je suis désolé. Vous restez avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de la 2000e édition de l'émission What's Up. C'est sur Gulli ce soir à 20h35. On peut évidemment les voir en vidéo. Je suis avec Antoine Pivnik, le producteur, et Benjamin Josse, réalisateur et rédacteur en chef. Antoine Pivnik, on n'a pas parlé chiffres. Comment ça marche What's Up ? Est-ce que vous avez une idée des audiences ?
Alors évidemment, je vais vous dire que ça marche très très bien. Et en fait, le chiffre qu'il faut retenir, c'est que depuis septembre 2019, un enfant sur deux en France a regardé l'émission. Ça fait 2,4 millions sur les 4,10, donc 46%, ouais. Ce qui est vraiment un bon score. Et l'émission en moyenne, mais il faut regarder les structures d'audience à cette heure-là, c'est 104 000 téléspectateurs. Ouais. Et on a des pointes jusqu'à près de 400 000. Donc pour un petit format comme ça, c'est vraiment une émission qui marche très bien.
Ouais. On connaît le public. Il y a les enfants et les parents ou les enfants tout seuls ?
Alors, on a repositionné le magazine cette année sur les familles parce que Gulli a été racheté par M6, comme vous savez.
Exactement.
Et donc, on s'adresse aujourd'hui autant aux familles, aux parents qu'aux enfants. C'est-à-dire que sur les reportages aussi, ça change des choses. Ils sont en compagnie de leurs parents le plus souvent. Mais sinon, c'est quand même une émission vraiment pour les enfants, quoi.
Est-ce que vous avez vu, un effet confinement ? Ou de toute façon, ça ne change rien, puisque à 20h35, les enfants vont pas en boîte ni au restaurant et sont devant l'écran de toute façon ?
C'est-à-dire un effet confinement.
Est-ce que les audiences ont regardé plus l'émission ? Oui, comme la plupart des émissions, mais là c'est bien normal puisque les gens avaient interdiction de sortir, mais les enfants de toute façon.
Oui, parce qu'on a eu notre
4 ans, vous êtes chez vous à ce temps-là.
Absolument. Ouais. On a eu notre meilleure pointe le 13 avril à 384 000 téléspectateurs, ce qui n'était jamais arrivé.
Benjamin.
Et en plus, c'est l'émission que les enfants ont droit de regarder avant d'aller se coucher. Donc c'est vraiment, je pense que ça structure un petit peu le quotidien dans les familles.
Voilà, c'est une phrase très connue. Gulli, les dents, pipi, au lit.
Voilà.
Benjamin Josse et Antoine Pivnik parlaient du changement de structure des gens qui regardent. Ça précipite ma question. Comment fait-on pour se renouveler ? Un format de 4 minutes, 35 minutes à remplir tous les jours, comment vous faites ?
Ce qu'on fait, c'est qu'on est en phase quand même vachement avec notre époque, et l'époque n'arrête pas de changer. Donc finalement, il suffit de regarder un petit peu tout ce qui se passe, et on est toujours étonné de voir des nouveaux sujets apparaître. Si on y réfléchit avant, effectivement, on se dit que c'est très compliqué, mais en fait, il suffit de se laisser porter par la vague, hein, finalement.
Ouais. Comment vous choisissez les sujets ? Il y a un panel d'enfants que vous testez pour savoir ce qui les intéresse. Je crois que Mon Petit Quotidien fait ça, par exemple. Ils font une réunion par semaine ou par mois ?
Non, pas du tout. Alors, c'est moi qui choisis.
Ouais.
On fait avec. Donc, non. Je choisis, en gros, des sujets qui pourront plaire, ou en tout cas, que je pense pourront plaire aux enfants. Et puis après, on tourne avec eux et on voit si j'ai eu le nez creux ou pas du tout.
Alors, il n'y a pas que le confinement dans la vie. Et quand l'émission n'était pas confinée, vos jeunes reporters partaient faire des interviews. Exemple, Aya, 12 ans.
Aujourd'hui, grâce à nous, Aya, une téléspectatrice de Gulli, va faire la connaissance d'une star.
Salut Wazef, je vais rencontrer Vaïma Lama.
Oh génial, elle était Miss Tahiti, puis Miss France l'année dernière, et maintenant Vaïma Lama Chavez se reconvertit dans la musique. Si Aya la rencontre, c'est parce que Vaïma Lama sort son nouveau single, et notre journaliste junior a plein de questions à poser.
Est-ce que tu as toujours voulu être chanteuse ?
Je n'osais même pas rêver d'être chanteuse en vrai, parce que pour moi, c'est un rêve qui est tellement grand, tellement haut. Je peux même pas dire que j'ai toujours voulu l'être, parce que même en secret, c'était pas possible pour moi. Pourtant, aujourd'hui, c'est le cas.
Oui, c'est le cas.
Benjamin Josse, on a entendu Miss France 2019. Quelles autres stars ont accepté de se prêter au jeu ?
D'autres stars, on a beaucoup de chanteurs déjà. Ouais. On a beaucoup de chanteurs et on a quelques humoristes aussi. Dernièrement, on a eu, pour du Cobu, tout simplement, j'ai oublié son nom. Voilà.
Elie Semoun,
voilà, qui a participé. Sinon, on a Zep en matière de bande dessinée, qui est quand même un grand nom,
ah bah évidemment,
qui participe régulièrement à l'émission. Donc, on est toujours très fiers.
Et comment vous trouvez, comment vous recrutez les jeunes reporters?
Il y a beaucoup de via le site, tout simplement sur gulli.fr, il y a une rubrique WhatsApp, les gens peuvent nous envoyer des messages, des familles peuvent le faire, et voilà, on les recrute via internet, tout simplement.
Et je voulais une dernière question pour Antoine Pivny, combien de personnes travaillent sur l'émission?
Benjamin qui est la rédaction chef, ouais, un monteur, on a un JRI et un journaliste. On est 4 personnes, plus moi 5, plus la chargée de prod 6.
Vous avez déjà signé pour la saison prochaine?
C'est en discussion. mais on est très très fiers en fait d'avoir passé cette période de confinement et d'avoir réussi avec les familles à maintenir l'émission. Et je pense que, je ne sais pas si ça comptera, mais disons qu'on a été là, quoi.
Merci.
Et je pense qu'on va, oui, j'espère qu'on va faire une 11e saison.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Antoine Pivnik, le producteur de Was Up. Et merci à Benjamin Josse, réalisateur et rédac chef. Merci. La 2000e, c'est ce soir à 20h35 sur Gulli. Je précise que vendredi prochain, le 29, ce sera notre 200e à nous. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Nous serons avec Ophélie Meunier pour le retour à l'antenne des reportages inédits dans son émission Zone Interdite sur M6. Il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino. Puis Akhenaton, Arte diffuse ce soir le concert privé du groupe Aya. Nos indispensables de la cuisine avec Laurent Mariotte, il va nous proposer son menu de printemps pour des retrouvailles à moins de 10, pas moins de 10 euros, à moins de 10 personnes. Et puis un roman qui nous transporte de Brooklyn jusqu'au Goulag, ce sera avec Bernard Poirette juste après ça.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant avec Ophélie Meunier, il y aura ensuite le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis nous recevrons Akhenaton du groupe IAM, nos indispensables de la cuisine pour moins de 10 personnes et un livre qui a reçu l'an passé le prix du premier roman étranger.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Ophélie Meunier.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Ravi de vous entendre, vous êtes la présentatrice de M6 de Zone Interdite. Zone qui revient ce soir à 21h avec un numéro inédit. Alors avant que vous nous racontiez comment vous avez vécu ce confinement humainement et professionnellement, on va d'abord parler de l'émission de ce soir. Le thème choisi pour ce retour des inédits dans Zone Interdite, c'est « Ils construisent la maison de leurs rêves ». Pourquoi ce choix ?
Envers et contre tout même, ils construisent la maison de leurs rêves. Alors je vous explique, vous avez été dans votre studio à Philippe Vandel pendant le confinement, donc vous êtes sorti un petit peu de chez vous, mais pour la grande majorité des Français, nos maisons sont devenues pendant ce confinement totalement le centre de nos vies. On avait démarré ce tournage parce que vous savez que Zone Interdite est tournée sur le long cours, quasiment un an à chaque fois pour chaque documentaire. Donc on avait démarré évidemment ce tournage avant le confinement, vous vous doutez bien, mais il se trouve que quand le confinement est arrivé, ce documentaire a pris une toute autre dimension. On suit 4 familles donc qui construisent ou qui rénovent ou qui agrandissent leur maison pour ce documentaire. Et on avait déjà eu l'occasion de bien les connaître. Ils avaient confiance en nous et donc on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord, même si le confinement est annoncé, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on continue à vous tourner pendant le confinement, parce que forcément ça rajoute un enjeu et un rebondissement à votre expérience. Ils ont tous dit oui tout de suite.
Je vais vous dire le sens.
Pardon, oui, dites-moi.
Non, en fait, je veux dire le sens de ma question, c'est que Zone Interdite n'a pas quitté l'antenne pendant le confinement, mais le dernier numéro inédit avait un thème très ancré dans l'actu. C'était le 29 mars, j'ai retrouvé médecin, infirmier, aide-soignant en première ligne face à Covid-19. Et je me suis dit, pourquoi ce choix d'un thème beaucoup plus feel-good? Parce que l'émission, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est assez feel-good quand même. Ça, elle est bon esprit, cette émission. C'était un choix volontaire de votre part.
Elle est très, très feel-good. Je crois que c'est, je ne sais pas vous, je ne sais pas tout le monde, mais je suppose que c'est vraiment ce qu'on a besoin de voir en ce moment. Après 2 mois qui ont été, je pense, pour tout le monde assez compliqués, clairement, ça va faire du bien de rire, de voir des gens, oui, qui galèrent un petit peu, mais toujours avec le sourire. Donc c'est ça, c'est, oui, pour répondre rapidement à votre question, ça, ce premier choix, c'était de présenter quelque chose à l'antenne pour notre retour en inédit qui fasse du bien.
Ouais. Alors, j'ai découvert avec vous, il y a 1 million de Français qui se lancent dans les travaux. J'ai appris ce qu'était la surélévation, 10 000 surélévations chaque année en France, donc c'est pas rien. Il y a des images à couper le souffle, par exemple, chez Corinne et Frédéric. Ils ont acheté 150 000 euros un vieux mas dans les Cévennes, 6 hectares autour d'eux de garrigues, le plus proche voisin à 3 km, ça fait rêver. Comme elle le dit elle-même, on a l'impression d'être toute l'année en vacances. Et puis, bon, ça c'est sur le papier, parce que, pardon de sourire, mais il y a souvent des galères. Exemple.
À cause de la crise sanitaire, les ouvriers polonais ont dû repartir dans leur pays. Parquet, cloison, électricité, plomberie, tout est à faire. Impossible d'emménager pour l'instant. Pour autant, pas question de broyer du noir. Sophie a même trouvé un moyen pour profiter de sa maison malgré tout.
J'ai mis mon lit provisoire dans la chambre, là, si jamais ça traîne encore, je pourrais dormir cet été.
Ouais, les Polonais sont retournés en Pologne et toi, t'es là avec ton contrat, il n'y a plus personne, c'est horrible.
Ouais, mais ça, je pense que beaucoup, donc notre famille l'a vécu, mais beaucoup de Français l'ont vécu, qui s'étaient lancés dans des travaux, parce que beaucoup d'ouvriers en France très qualifiés sont étrangers, et évidemment, ils sont tous retournés dans leur pays au moment du confinement, ont tous été rapatriés ou ont décidé de retourner dans leur pays, et donc les gens se retrouvent avec leur chantier sur le dos, et ce qui a été sympa d'ailleurs, et que vous verrez dans le documentaire, c'est que, alors il y a un certain nombre de choses qu'on ne sait pas faire tout seul, mais pour ce qu'on sait faire tout seul, mais finalement, les familles ont dit, bon ben on va pas s'arrêter là, tant pis, on va mettre nos bleus de travail, on va prendre nos pinceaux et on va faire tout seul quoi.
Ouais. Puis il y a le gamin qui veut tout peindre en jaune. Il y a le doc qui montre des galères, l'architecte qui s'est trompé de 70 cm sur la hauteur d'une maison en bois, je me dis mais c'est pas possible, du coup le permis de construire n'est plus valable, la mairie ordonne de stopper les travaux ou de déplacer la maison, le terrain était en pente, ils ont déplacé une maison, c'est un cas complètement extrême ou est-ce que ça arrive souvent, Ophélie Meunier, ce genre de galères?
Non, je pense que là c'est très 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 exceptionnel. Hein. Heureusement, ça n'arrive pas souvent qu'un architecte se trompe quand même. On parle pas là de 2 ou 3 centimètres, hein. On parle de 70 centimètres, ce qui fait que la maison en effet était trop haute, ne répondait pas aux critères d'urbanisme, et donc il faut juste tout arrêter, tout démonter et tout recommencer. Donc cette famille a perdu plus d'un an. Hein. Les assurances ont payé, mais cette famille a quand même perdu plus d'un an dans le chantier de sa maison. Donc dur, dur. Ouais. Mais finalement, vous allez découvrir dimanche une très très belle maison d'architecte en bois à 100 mètres de la mer, donc tout est bien qui finit bien pour cette famille.
Ouais, et puis il y a aussi une séquence émotion, les parents de 3 enfants qui les envoient chez les grands-parents parce qu'ils vont attaquer le gros œuvre, ils vont tout détruire pour agrandir, et là, on va entendre le père de famille, je précise, c'est un grand gaillard baraqué, vous allez me dire, ça veut rien dire, mais quand même, le gars, il finit en larmes.
Allez. Bon, allez les jeunes, allez bosser.
Faites attention sur la route. Hein.
Oui, t'inquiète.
Prenez le temps.
C'est la première fois que parents et enfants vont être séparés aussi longtemps.
Tire pas la langue.
Tout ça, c'est pour eux qu'on le fait. Que ce soit la maison, que ce soit le terrain, on leur apprend des choses en faisant ça. Et ce qui est bien, c'est qu'ils en sont assez fiers, finalement.
C'est une belle leçon pour eux.
Non, c'est émouvant. Hein.
Moi, j'adore cette séquence parce que, en effet, hein, ça, il fait des travaux. C'est plutôt un mec. Il apparaît comme un mec fort, viril, à l'antenne, qui doit être très certainement. Mais voilà, dès qu'on parle d'un projet de vie comme ça, dès qu'on parle d'un projet où on sait que ses enfants vont en bénéficier, que ça va être pour leur avenir, voilà, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est ce que je dis au début du documentaire. Mais vous allez découvrir l'aventure d'une vie pour ces familles, avec plein d'émotions, plein de rebondissements. Et des fins toujours heureuses, et ça se fait du bien de voir ça en ce moment.
Il va falloir que vous racontiez comment vous avez travaillé pendant cette période de confinement. Vous restez avec nous, Ophélie Meunier. On marque une courte pause sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Ophélie Meunier, le retour des inédits dans l'émission Zone Interdite que vous présentez, ce sera dimanche sur M6. Ils construisent la maison de leurs rêves, c'est le thème de l'émission. Il y a un paradoxe, vos équipes sont en train de filmer des gens confinés chez eux, autrement dit, vos équipes ne sont pas confinées.
Nos équipes ne sont pas confinées, mais il y a quelques métiers dont les journalistes continuent à travailler. Oui. Donc voilà, on a simplement et efficacement appliqué les gestes barrières. Donc peu de monde sur place, une distance sociale respectée, des masques, des gants, et puis ça roule. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, hein, tout simplement.
Et vous-même, Ophélie Meunier, comment vous avez travaillé pendant le confinement? Vous avez travaillé de chez vous, d'M6, vous aviez un kit pour faire les voix, comment ça s'est passé?
Un peu des deux. Alors, j'ai travaillé beaucoup de chez moi pour toute la partie écriture, la partie enquête, tout ce qui pouvait être fait depuis la maison a été fait de la maison, en fait. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait une semaine de 19h45, le journal d'M6. Ouais. Évidemment, là, j'ai été au bureau à la rédaction.
Joker de Xavier Demoulin.
Donc, là, j'ai été évidemment à la rédaction. Hein, donc, en fonction de ce qu'on avait à faire, on a réparti. La consigne était tout ce qui peut être fait depuis la maison est fait depuis la maison. Ouais. Et puis on a repris, pour Zone Interdite en tout cas, on a fait aucun tournage hein, pendant le confinement, à part ces équipes-là qui avaient déjà démarré des docs qui ont terminé. Mm-hmm. Mais sinon, moi, la reprise de tous mes plateaux, toutes mes interviews et tous mes lancements, c'est faite le 11 mai.
D'accord. C'est vous qui faites la voix off dans le doc qui passe ce soir ?
Oui, tout à fait. Oui,
ah
oui,
bon,
j'ai fait ma prise de voix cette semaine. De la même façon, notre studio de son est désinfecté en long, en large, en travers, après chaque prise de voix.
Attendez, méfiez-vous de cette question. Parce que je ne sais pas si c'est votre voix ou si c'est une voix témoin, mais...
Non, c'est la voix témoin, là, dans les extraits.
Ah, d'accord. Alors, je raconte. Je vais démarrer par cette info. Dans la banlieue de Lyon, ouais, une famille dans les starting blocks. Voilà, ça c'est l'info, sauf qu'au son, ça donne ça.
Dans la banlieue de Lyon, une famille est dans les starting blocks.
Et pourquoi vous faites ce son télé ? Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la banlieue de Lyon.
Alors, c'est pas moi, mais je veux pas blâmer Andrea, qui est la voix d'Andrea, qui est la rédactrice en chef du documentaire, parce que c'est une prise de voix témoin, c'est notre outil de travail. Ouais. Donc on vous a envoyé ça parce que moi j'avais pas, évidemment, en confinement oublié, j'avais pas encore pu mettre ma voix sur le film, mais voilà, vous moquez pas, c'est un outil
je
de travail,
pas, c'est Doc. Mais vous savez quoi au sujet d'Andrea ? Je lui ai souvent dit, mais elle ne m'écoute pas.
Voilà, mais elle a énormément de qualités de journaliste et donc je ne veux surtout pas la blâmer.
Sérieusement, Ophélie Meunier, comment vous avez vécu le confinement ?
Alors, j'ai envie de vous dire plutôt bien,
ouais,
mais ce serait à refaire. Je sauterais pas de joie.
Ouais.
Disons que j'ai pas aimé grandement le fait d'être enfermée toute la journée. Je suis restée dans mon appartement parisien parce que je savais que j'allais devoir me rendre de temps en temps à la rédaction. Donc voilà, j'ai pas, en tout cas moi, la question ne s'est pas posée d'aller de partir à la campagne pour le confinement. Donc moi j'ai pas d'extérieur et c'est vrai que j'ai un petit peu souffert du manque d'air. Ouais. Je vous cache pas. Maintenant, c'est un moment qui a été super puissant familialement. Et ça a été unique et je sais que je me souhaite de pas avoir à nouveau l'occasion de le vivre, mais en tout cas je prends et comme souvenir familial des moments où on a été tous ensemble. Vous savez que j'ai un petit garçon qui a presque un an.
Ouais.
Je l'ai vu grandir là ces deux derniers mois comme jamais j'aurais eu l'occasion de le voir grandir. Donc pour ça, en ça, ça a été extraordinaire.
Ouais. Et vous êtes mise à cuisiner. J'en parle parce que vous voulez pas raconter.
Ouais, j'aime beaucoup beaucoup cuisiner et je prends peu le temps de le faire en semaine parce que pas ma grande priorité. Mmh. Donc là, je me suis mise à cuisiner avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Course et cuisine, oui, ça a fait partie de mon confinement et c'était bien agréable, je ne vous cache pas.
À la lumière de ce confinement, Facebook vient de prendre une décision assez révolutionnaire. Désormais, la moitié de ses effectifs va bosser en télétravail. Est-ce que vous songez à ce genre d'organisation ou de réorganisation pour vous et pour votre équipe ?
Oui, j'ai vu ça. Je pense que, alors nous, on a des choses vraiment qui sont, on ne peut pas les faire à distance. Évidemment, aller interviewer des gens, les rencontrer sur le terrain. Comme je vous disais, les prises de voix, ça, on pourrait avoir un kit son, mais sur un documentaire de 1h30, c'est quand même compliqué. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut pas faire à distance. Donc, ça, on continuera toujours à les faire, évidemment, sur le terrain. En revanche, je crois profondément, c'est en discussion, je pense, à M6, hein, de toute façon dans tout le groupe et même dans beaucoup d'entreprises, je crois profondément que l'organisation du travail va changer désormais et qu'on va être amené à travailler de plus en plus depuis chez nous dès qu'on le pourra pour éviter tout simplement qu'on soit trop nombreux dans nos bureaux, dans nos open space et qu'on puisse un maximum se protéger les uns les autres. Donc oui, je pense que nous, on va en parler là dans ces prochaines semaines, hein, on reprend tout doucement depuis le 11 mai, mais on va clairement essayer de faire de plus en plus de choses depuis chez nous.
Merci beaucoup Ophélie Meunier, je rappelle, le retour des Inédits dans Zone Interdite, ce sera ce dimanche sur M6 et ce sera avec votre voix. On va voir des familles qui construisent la maison de leurs rêves. Merci pour ce sourire.
Avec plaisir.
À bientôt.
Merci,
au revoir.
Philippe.
Culture Média qui continue.